France Inter.
Sociétaire, honoraire et administrateur général de la Comédie Française, le comédien, metteur en scène et scénographe Éric Ruff quittera la maison dans laquelle il fit son entrée il y a 32 ans, le 4 août prochain, date à laquelle lui succédera Clément Hervieux-Léger. Entre le jeu, les mises en scène, les scénographies, les opéras, le cinéma et l'administration de l'institution, Éric Ruff semble avoir trouvé le moyen de doubler le nombre d'heures de chaque journée. Jusqu'au 13 avril prochain, il met en scène Le soulier de satin de Claudel, visible pour les chanceux tous les samedis et dimanches à la Comédie Française de 15h à 23h30, entr'actes compris. Un émerveillement se déroulant tout autour du globe et en mer, agrémenté de sublimes costumes dignes de royaumes portatifs, signé Christian Lacroix, et une scénographie aussi réjouissante que poétique. Un drame d'amour spirituel donnant à voir les confins de l'âme humaine et le verbe envoûtant et absolu de Paul Claudel. De nouveau, la tyrannie sur moi du fini et de l'accidentel, s'exclame un personnage revenant à la vie. Je ne peux vous priver plus longtemps de la place que vous vous êtes à vous-même assignée, déclare un autre à un homme qui vient de s'humilier devant lui. Le coït est une promesse de conjonction corporelle et l'on demande comme faveur aux gens déplaisants de cesser d'exister un court moment. La pièce dont s'étaient emparés Antoine Vitesse et Jean-Louis Barrault éblouit dans l'adaptation, la mise en scène et la scénographie de l'administrateur du Français qui incarnait récemment au cinéma le cardinal Richelieu dans les deux volets des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon et jouera un père militaire et rigide dans le film Cassandre réalisé par Hélène Merlin en salle le 2 avril prochain. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Éric Ruff.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Il y a à peu près 20 minutes, 4 jeunes gens alors, qui sont, je crois, au conservatoire de La Roche-sur-Yon et qui venaient passer le conservatoire, le concours du conservatoire et qui sont passés à la terrasse du Nemours à côté du Français et qui se sont arrêtés pour me dire très franchement le bien qu'ils pensaient du soulier de satin et je me réjouis toujours que des gens aussi jeunes et qui ont envie de faire ce métier trouvent dans le travail que je peux faire à l'âge que j'ai de quoi se nourrir. Ça me ravit.
Mais alors, le soulier de satin qui est une merveille dans votre adaptation et votre mise en scène, c'est quand même terrible parce qu'on va en parler mais en fait on ne peut plus aller le voir, il n'y a plus de place.
Non, il n'y a plus de place.
Comment on fait ? Alors, on campe devant la Comédie Française dans l'espoir
Non, je sais pas, on envoie des pétitions au futur administrateur pour qu'il reprenne le spectacle.
Bon, alors, comme l'émission doit être quand même adaptée à tous les publics, on va surtout parler de Claudel et d'un texte magnifique, et évidemment de quelques allusions à la pièce. En 93, vous êtes entré dans la troupe de la Comédie Française.
Oui.
En 2014, vous avez été nommé le 4 août administrateur général, un mandat de 5 ans renouvelable par période de 3 ans. Vous avez exercé ce mandat pendant 11 ans.
Oui, absolument.
Et le 4 août prochain, Clément Hervieux-Léger vous succédera. Où la décision de quitter le Français trouve-t-elle sa source ?
En fait, pour le coup, c'est pas une décision. À un moment, en 2014, quand justement j'ai voulu être administrateur, c'est parce que j'avais décidé, j'avais je crois 44 ans par là, je me posais la question de quitter le Français, maison dans laquelle j'étais extrêmement heureux. Je faisais déjà des mises en scène, des scénographies, ma parole était plutôt écoutée chez mes partenaires, donc tout allait bien, mais je disais, je vais finir doyen si je continue. Et il me restait évidemment toute une part de vie que je voulais éventuellement consacrer à autre chose. Et acceptant de quitter le Français, je me suis dit, peut-être que tu peux continuer quelques années à servir cette maison à l'administration. Et donc j'ai choisi le poste d'une certaine manière le plus précaire, parce que ce sont des mandats, et là, ce n'est pas un choix, donc il n'y a pas de source pour vouloir partir. J'ai fait les 11 ans, donc je suis au bout du scotch administratif, et donc j'aurais fini tout ce que je pouvais faire.
J'ai retrouvé une interview de vous où vous dites justement que, ayant eu envie de partir à ce moment-là, vous vous êtes dit que c'était sans doute le bon état d'esprit pour diriger.
Oui, oui, absolument. Mais parce que administrateur général, c'est, comme son nom l'indique, ça n'est pas être le représentant que des actrices et des acteurs, c'est être l'organisateur de l'ensemble des plaques tectoniques de cette maison, qu'elles soient administratives, qu'elles soient techniques, qu'elles soient artistiques. Et le fait de pouvoir quitter les partenaires qui étaient les miens, me mettait dans une position un peu plus plus insulaire et qui était, je pense, la bonne.
Est-ce que vous éprouvez de la mélancolie à l'idée de quitter cette maison alors ?
Oui, beaucoup. Je suis très heureux, parce que très curieux. J'aurais passé 32, 33 ans dans cette maison, donc d'une certaine manière j'y ai passé ma vie. Je suis rentré très jeune. Je suis très avide de ce qui peut se passer après. Je suis très curieux de savoir si je suis doué d'une qualité contemplative, ou peut-être pas du tout, donc il va falloir que je m'occupe. Mais je pense que je vais avoir un gros chagrin.
Vous auriez pu rester comme comédien ?
Non, parce qu'en tant que sociétaire honoraire, je fais, alors c'est un statut assez spécial, je fais partie de la troupe de la Comédie Française, des listes, jusqu'à mon dernier souffle, mais par contre je ne fais plus partie de la troupe active, donc je peux être appelé par une prochaine direction pour revenir jouer, ça c'est tout à fait possible, les statuts autorisent à ça. Donc en fait, je pars tout en ayant une sorte de cordon ombilical jusqu'au bout.
Je crois que vous avez fait le plein de livres pour prévoir le futur, il y a des piles de livres qui vous attendent.
Absolument, oui. J'ai passé les dernières années à lire beaucoup de liasses comptables et de rapports d'activité, une littérature qui a son pesant de cacahuète hein, quand même, mais qui est moins littéraire que mes premières amours. Donc effectivement, j'ai reçu beaucoup de livres dans mon poste. On reçoit énormément de livres d'art, de littérature. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire parce que c'est très prenant. Et effectivement, j'ai des colonnes doriques chez moi en me disant que j'aurai le temps de les lire ensuite. Je traverse depuis des années les jardins du Palais Royal, j'ai cette chance-là. J'aime bien, on appelle ça une saison au théâtre, et puis finalement quand je traverse ce jardin, ben, je sens les saisons véritablement, le passage, les bourgeons, voilà, tout ça, l'automne, la mélancolie qui vient, la renaissance ensuite. Et à chaque fois je vois des gens, quand je passe le matin avec des landaus, ou des gens souvent retraités, des promeneurs de chiens aussi évidemment, mais aussi des gens retraités qui se mettent sur les magnifiques chaises vertes du Palais Royal et qui ouvre un livre et d'après leur attitude, ils ont le temps d'aller jusqu'au dernier chapitre.
Oui.
Et ça m'a toujours fait rêver. Donc peut-être que dans quelques mois, je pourrai me poser dans les jardins pour lire.
Tout à l'heure, vous parliez de différents types de littérature. Stendhal, avant d'écrire, lisait le Code civil pour ne pas être imprégné d'un style en particulier. Je crois que vous avez aussi un désir d'écriture.
Oui. Enfin, j'ai une pratique de l'écriture un peu masquée, comme beaucoup de gens. Si vous me demandez d'écrire vraiment de la littérature, j'ai un tel respect pour la littérature que ça me tétanise immédiatement. Mais par le biais de mon métier, en faisant des notes de service, en écrivant aux uns aux autres, en faisant des correspondances avec des artistes que je désirais inviter, en répondant beaucoup aux courriers des spectatrices et des spectateurs, je me suis entraîné la plume, là pour le coup, mais tout en me disant c'est pas tout à fait de la littérature, mais tout en faisant exprès d'essayer d'écrire le mieux possible. Donc il va falloir que je passe ce truc-là. Et puis oui, en tant que j'aurais passé beaucoup de temps dans cette maison assez exemplaire et assez singulière en même temps. Et puis mes diverses positions en tant que jeune comédien plus confirmé, et puis sociétaire, rentrant dans les arcanes administratives et stratégiques de cette maison, administrateur évidemment, puis metteur en scène, et puis scénographe. J'ai vu passer des équations assez intéressantes que j'ai pu regarder de points de vue très très différents. Et j'ai jamais pris le temps d'aboutir ces équations, d'essayer de les mettre sur le papier, et de les enrichir, voilà, en prenant le temps. Ça, j'aimerais bien le faire.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Vous avez composé Le Soulier de Satin en plusieurs années, n'est-ce pas ?
Ça a été écrit en 4 ans. La première partie a été écrite à Paris, ça a été continué ensuite au Danemark et achevé au Japon. Et la troisième partie a été détruite dans le tremblement de terre qui a détruit mon ambassade. J'ai dû la recommencer de fond en comble, ce qui est un travail extrêmement curieux et difficile.
Et je crois même que, peu avant sa représentation, vous avez été encore obligé de remanier votre œuvre.
J'ai été surtout inspiré de la remanier. Ce n'est jamais la même chose d'avoir une œuvre sur le papier ou de la voir vivante et parlante devant vous. Alors, quand j'ai assisté aux premières répétitions du théâtre français, j'ai vu que la scène finale, la disparition de Prouesse, exigeait une autre présentation que j'ai refaite en une nuit, quelques 8 jours avant la répétition définitive.
La mise en scène vous a-t-elle donné satisfaction dans
La mise en scène était admirable. Je n'ai que des éloges à faire de M. Barrault, que je considère comme un véritable génie, soit comme acteur, soit comme metteur en scène.
Paul Claudel, en 1941, au moment de la création du soulier de satin à la Comédie Française par Jean-Louis Barrault. Éric Ruff, Télérama vous qualifiait très récemment de claudélien dans l'âme. Qu'avez-vous en commun avec Claudel?
Oh là là, je ne sais pas du tout.
La foi? Bien non, qu'elle soit plutôt protestante de votre côté?
Oui, c'est plutôt... L'ascendance est protestante et je n'ai pas la foi, j'ai le culte, peut-être, un rapport aux choses qui n'est pas loin d'être empreint de sacré ou de méthode ou de liturgie, je ne sais pas comment dire ça. Mais il n'y a pas si longtemps, Didier Sandre, protestant, je crois, fils de pasteur, comme moi je suis petit-fils de pasteur.
Et puis qui Bertrand joue dans la pièce.
Qui joue dans la pièce, dont Pélage, et qui était le Rodrigue exceptionnel de Vitesse.
Vous avez quand même deux grands-pères pasteurs, c'est assez rare pour être signalé.
Absolument. On peut le signaler, d'où la liturgie. Et puis Bertrand Couder, qui est un magnifique éclairagiste, c'est lui qui signe les lumières du soulier de satin que j'ai mis en scène. On se penchait sur le berceau claudélien, parce qu'on était trois protestants à bosser sur la messe là-bas, qui a un texte très, très intéressant de Claudel. Et je m'étonnais du fait que nous trois, au-delà de nos croyances ou pas, mais de cet héritage-là, on se penchait sur ce texte. Et il y a chez Claudel, en tout cas c'est comme ça que je le lis, une volonté farouche de casser le dogme et de pouvoir prendre un rendez-vous direct et presque horizontal avec Dieu. Voilà, donc... Et les protestants ont dit que voilà, on ne peut rien laver le dimanche à la messe ou au culte. On est sous le regard de Dieu tout le temps, donc on est dans un rapport à peu près direct. Et peut-être que mon habitude, mon héritage protestant trouve là-dedans, dans l'espèce d'orgueil et de rudesse claudélienne. Je l'entendais parler dans l'archive, c'est magnifique, l'accent, comme il parle. On pense toujours que Claudel, c'est du papier Bible, mais là, tout d'un coup, il y a une rugosité, il y a un terroir, il y a un essoufflement de vieux monsieur, c'est absolument magnifique. Je rêverais, je crois que ça existe d'ailleurs, ces archives-là, on rêve de l'entendre dire son texte. De temps en temps, les textes prennent un sacré dont ils ne sont pas issus. Et on a quelquefois tort de les respecter là où finalement ils ne sont plus respectés, parce qu'il s'éloigne vraiment du geste, de l'essence au départ. Madeleine Marion, qui était une grande claudélienne et que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur au conservatoire, disait que Claudel disait de sa langue que c'était la langue des boyaux. Voilà. Et quand j'entends cette archive, oui, on entend, on imagine son corps.
Et Vitesse disait qu'on aurait pu comprendre Claudel sans Madeleine Marion.
Sans Madeleine Marion, absolument.
Alors, autre personnage qui n'a rien à voir avec Madeleine Marion, c'est Sioran qui disait « S'il y en a un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu ». Et je voulais savoir si vous partagiez avec Claudel l'amour de Bach et l'amour de Rimbaud.
Oui, l'amour de Bach, oui, absolument. C'était un amour forcé. J'ai essayé un moment, parce que mon père...
Restaurait
des clavecins, c'était une sorte de hobby, parce qu'il était cardiologue de profession, mais... Donc je crois qu'il voulait être chirurgien cardiaque et puis ses études n'avaient pas pu être poussées jusque-là et donc il s'exerçait au scalpel sur des tables d'harmonie, voilà, sur les clavecins, et donc c'était un fou de Bach. J'en ai beaucoup entendu, et il est vrai que j'y reviens et j'adore ça.
Et Rimbaud.
Et puis Rimbaud, oui, c'est ben, alors, la figure de Claudel telle que une certaine génération, en tout cas, en garde le souvenir, à cause de Camille Claudel, parce que académicien, parce que consul, etc. Je plaisante toujours en disant qu'il a été emburé vivant. Voilà, on en a fait une espèce de dogmatique ou de sachant dont toute l'œuvre dirait c'est ça qu'il faut penser.
Le contraire de ce que vous avez fait à la Comédie Française pendant tout votre mandat.
Je l'espère, mais en tout cas sachant la passion de Claudel pour Rimbaud, qui est la figure contraire dans l'imaginaire des gens, de celui qui a le manteau de plein vent et le soulier palacé, etc., et qui font des aventures, qui finit marchand d'armes, etc. Enfin, tout ce truc-là, c'est marrant, parce que les figures ne sont pas aussi distinctes que ça. En tout cas, c'est des passions l'un pour l'autre. Si c'est des figures contraires, alors elles s'épousent à un endroit qui est peut-être le théâtre de Claudel, justement.
Ce projet de monter Le Soulier de Satin, une pièce rarement montée, une pièce qui, dans sa version intégrale, dure 12 heures, je crois, que vous avez réduit à 7 heures, est né pendant l'un des confinements sur la web radio du Français. Ouais. Vous vouliez redonner du moral à la troupe.
Oui, parce que c'était le second confinement, donc celui au cours duquel nous pouvions travailler ensemble, mais ne pas encore accueillir de public. Donc effectivement, on faisait ce qu'on appelait des théâtres à la table, où on choisissait un texte, on le travaillait quelques jours, quatre jours, et puis ensuite on faisait une prise, donc pas que radio, vidéo aussi. On faisait une seule prise en un plan séquence, voilà. Et à un moment, effectivement, on avait déjà enregistré l'ensemble de La Recherche du Temps Perdu et l'intégrale des Fables de La Fontaine, donc il restait l'Iliade, l'Odyssée, la Torah, la Bible, voilà, et le Coran. On savait plus quoi faire, et donc La Recherche du Temps Perdu théâtral, c'est l'immense œuvre comme ça, symbolique, en longueur, en richesse, en complexité pour le théâtre français, c'est Le Soulier de Satin. Et puis on avait, alors c'est en quatre journées Le Soulier de Satin, comme on dirait en cinq actes.
Oui, qui ne sont pas des journées.
En quatre journées, qui ne sont pas des journées, effectivement, mais c'est la séparation comme par acte. Quatre journées, pendant ce problème de programmation, déprogrammation, voilà tout ce qu'on a vécu à cette époque-là, la salle Richelieu, dans laquelle le spectacle est décrit en 1943, était libre un mois. Un mois, c'est quatre semaines. Un théâtre à la table, c'est une semaine. Donc tout d'un coup, on pouvait faire les quatre journées. Et effectivement, j'ai fait la première. C'était Suliane Brahim qui jouait Prouez à ce moment-là, et puis le travail était évidemment très rapide, donc très désordonné, très impréparé, avec des acteurs avec la brochure en main, avec deux trois choses par cœur, et puis des petits bouts d'accessoires, une fraise par là, une hallebarde par là, etc. Ce qu'on avait eu le temps d'aller chercher dans les réserves, et puis en écoutant cette prise unique, je me suis dit mais c'est pas mal. D'ailleurs, je me suis dit mais alors si on est capable d'arriver à ce résultat-là avec 5 jours de boulot, ça veut dire 5 fois 4, 20, donc en 20 jours, je peux monter le Soulier de Satin. Et comme j'avais 2 mois et demi, je me dis, mais c'est super luxe, en fait, j'ai vraiment du temps.
Et vous aviez monté juste avant Peer Gynt d'Ibsen et La Vie de Galilée de Brecht, considérés aussi comme des monuments impossibles à monter, et vous dites, Eric Ruff, quand la chose semble impossible, on se sent plus libre que quand elle est probable.
Oui, absolument, parce que si vous démarrez en disant, de toute façon, je ne peux pas le réussir,
oui, on a une pression en moins.
On est beaucoup plus léger.
C'est qu'on va vers l'échec directement.
Oui, ou en tout cas, qu'on est dans une perspective et pas forcément dans un résultat ou un final cut à de devoir définir, pour le coup. Donc, est-ce qu'il lit, d'ailleurs, il y a autre chose qui sous-tend ces trois œuvres. C'est des monuments, alors c'est impressionnant et oui, on est plus à l'aise devant. En tout cas, moi, je me sens plus à l'aise devant. Mais surtout, c'est des œuvres. Je me suis dit ça au bout d'un moment parce que je l'avais pas calculé. Ce sont des œuvres qui racontent le destin d'une vie. Peer Gynt, il commence, il a 18 ans, il finit, il en a 80. La Vie de Galilée, ça se passe quand même sur à peu près 30 ans. Et puis là, Le Soulier de Satin. Et j'aime beaucoup ça. Alors ça, c'est peut-être mes ascendances religieuses, mais j'aime beaucoup voir des personnages vieillir. Il y a des pièces où on voit les gens sur deux jours, mais Juliette, ça se passe, voilà, c'est très très court. Là, pour le coup, on voit à quel point on peut devenir absolument débile et à quel point on peut avoir des rédemptions aussi. À quel point, des fois, quand on abandonne les choses et qu'on se dit finalement, est-ce que je pourrais pas être Diogène dans mon tonneau? Est-ce que c'est pas là la vraie richesse? Je trouve que cette parabole de vie, il y a pas beaucoup d'œuvres qui le montrent et ces œuvres, pour ça, m'intéressent beaucoup.
Le Soulier de Satin. Action espagnole en quatre journées.
Il n'y a pas un mouvement de mon corps qui ne vous dise que je ne suis plus à vous.
Vous êtes à moi, tant que vous êtes capable de me rendre service.
Mais quel service? Quand celui-ci même, je le vois mourir.
Où qu'elle soit, je sais qu'elle ne peut pas s'empêcher d'entendre les mots que je lui dis.
La bande-annonce de votre version scénique mise en scène et scénographie du Soulier de Satin de Paul Claudel, Eric Ruff, qui est en ce moment à la Comédie Française. En 1943, durant l'occupation, Paul Claudel l'avait confié à Jean-Louis Barrault. Et l'intrigue qui se déroule sur une trentaine d'années au temps des conquistadors et des grandes conquêtes pendant la Renaissance espagnole trouve sa source dans un épisode réel de la vie de Claudel, sa passion pour une femme, une Polonaise.
Ouais, Rosalie Vetch. Oui, il met en exergue deux choses. C'est marrant des fois comme on lit des préfaces dans les romans, mais ce qui est marqué par l'auteur sur la première page, la citation introductive, c'est toujours une clé de compréhension géniale. Faut jamais passer cette page-là. Et là, Claudel, il dit deux choses, etiam peccata, qui veut dire même le péché sert. Et puis un proverbe portugais qui dit Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
Oui.
Voilà. Et en fait, Claudel, qui a eu cette foi, je crois qu'il avait 18 ans, 20 ans, 18 ans, je crois, lorsqu'au quatrième pilier de Notre-Dame, un soir de Noël, il a entendu la parole de Dieu, il a été appelé, voilà, alors qu'il venait d'une famille catholique, mais qui avait donné quelques curés, quelques générations avant, mais qui était assez peu pratiquant pour le coup. Il a été illuminé, et donc il a consacré sa vie à cette foi-là, il a consacré une grande partie de son œuvre à l'explication de la Bible, une œuvre exégète très, très importante, et puis en même temps, il a eu cette passion adultérine pour cette Polonaise, avec qui il a eu un enfant même. Ils se sont quittés, il a eu une nouvelle pendant longtemps, mais ça a été une brûlure dans tous les sens du terme, hein, dans un sens positif et un sens négatif. Et on a presque l'impression qu'il écrit 12 heures de théâtre pour dire que même le péché sert. C'est-à-dire la thématique est que derrière le péché, peut-être que Dieu vous attend d'une manière plus probante, plus considérante, plus attentive. Il y a peut-être un rapport à Dieu qui passe plus par ce chemin détourné que par une vie consacrée, monastique, etc. Donc il met 12 heures de théâtre pour justifier d'une certaine manière ce qui a fait le sel de sa vie et sa brûlure.
Et pourtant, on pourrait se demander parfois, dans cette pièce qui raconte les amours impossibles de Don Rodrigue et de Doña Prouez, si justement il ne s'empêche pas un peu trop de pécher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacrificiel, comme si on trouvait un salut dans la douleur, comme si elle était cultivée. Je ne dirais pas jusqu'à dire masochiste, mais si j'ose le dire, masochiste.
Oui, il y a en tout cas une définition qui n'est pas à suivre, mais qui fait que l'amour pur, l'être nu, peut se qualifier, peut se rencontrer seulement dans l'au-delà et pas dans nos vies. Nos vies sont trop grossières et l'usure du temps, peut-être sur les amours qui sont les nôtres, fait une œuvre qui minéralise, qui solidifie les choses et qui les tue au bout d'un moment. Donc le choix, d'une certaine manière, que font ces deux êtres amoureux, qui d'ailleurs tombent en amour comme on tombe dans la rue, c'est-à-dire c'est presque pas des gens qui se sont choisis. Ils ont été appelés l'un par l'autre en ne comprenant pas pourquoi ils sont appelés. Ils essaient de résister à cet appel. Prouez, par exemple, dit à un moment « J'aime le sort que Dieu m'a fait ». Donc elle est plutôt bien dans sa vie et elle est arrachée, cette vie-là, dans l'appel de cet homme qui est hors mariage, en plus. Et ils vont résister pratiquement toute leur courte vie pour Prouez, pour garder un rendez-vous qui soit dans l'au-delà, un rendez-vous le plus pur possible pour ne pas allumer l'allumette de peur qu'elle se consume.
Oui, comme si tout ce qui pouvait se passer finalement dans la vie physique était condamné à être décevant.
Oui, il y a cette thématique-là. Et en même temps, Claudel est tellement vivant, c'est-à-dire qu'il décrit nos orgueils, nos espérances, nos désirs d'ailleurs. On peut parler de transcendance. Alors, quand on parle de transcendance, si elle est chrétienne, elle est toujours extrêmement dure à expliquer. Bon, Claudel était catholique, donc on peut l'expliquer par ce dogme-là. Mais il y a une phrase qui est absolument magnifique, dit Don Rodrigue, le vieux Don Rodrigue, à la fin, qui explique à sa fille pourquoi il ne veut plus agir, pourquoi il a tout laissé, et qu'il faut le laisser sur son bateau à peindre des saints. Voilà, comme un vieux peintre japonais. Il dit, comment t'expliquer pourquoi, lorsque je suis au sud, en fait, j'ai l'impression que c'est au nord et à l'ouest que je devrais être. Ça, je pense que c'est une phrase plus horizontale que tout le monde comprend.
Oui.
C'est un appel, c'est pas de la transcendance, mais dans nos vies, de savoir qu'on est là alors que potentiellement on serait mieux ailleurs ou qu'on est appelé dans une contradiction, ben on le transporte en nous tout le temps. Donc il y a ce côté, négatif et en même temps, Claudel nous décrit avec une plume extraordinaire. C'est un poète, oui. Alors, des fois, quand on dit c'est de la poésie, les gens se disent « Oh là là, je vais pas comprendre ». Le poète est peut-être celui qui a la plume la plus précise pour nous décrire, et surtout, c'est un grand auteur de théâtre. C'est-à-dire que les situations qu'il met sur le plateau du théâtre et les dialogues sont absolument extraordinaires.
Et vous les faites sonner de façon très moderne.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Éric Ruff, il paraît que vous avez longtemps voulu jouer Don Rodrigue ou Don Camille dans Le Soulier de Satin.
Non.
Ah bon? Parce que j'ai lu que vous disiez à 40 ans j'avais l'épaisseur pour cela, mais j'ai dépassé la date de péremption.
Oui.
Ça c'est de vous?
Mais oui, ça c'est de moi. Oui, oui. Mais c'est parce que j'ai eu la chance, sans que ça soit du tout une obsession, le hasard a fait que oui, j'ai rencontré Madeleine Marion lorsque j'étais jeune homme, jeune acteur. On travaillait beaucoup Claudel. Que ça soit dans les écoles privées ou au conservatoire, c'était vraiment une matière qu'on travaillait beaucoup. Et puis j'ai eu cette chance-là dans ma carrière de jouer Louis-Hélène dans l'échange, et puis surtout Mesa dans le partage de midi, déjà avec Marina Hans, qui est cette sublime, extraordinaire prouesse.
Et dont la mère avait joué dans une ancienne version.
Dont la mère était la prouesse d'Antoine Vitez. Oui, et on parlait de Didier Sand, qui joue dans Pélage, qui joue actuellement le mari de prouesse, et avec la fille de celle qui jouait prouesse lorsqu'il était Rodrigue. C'est des familles recomposées au théâtre, absolument.
Il y a un mot qui revient très souvent dans la pièce, c'est le mot « âme ». Comment l'entendez-vous ?
Moi, j'entends l'âme comme ce qui nous... C'est le grand jadis de Pascal Quignard. J'entends l'âme dans ce qui nous constitue et qu'on ne sait pas énoncer. Voilà, qu'on ne sait pas analyser, c'est notre fond commun, je ne sais pas comment dire ça. On parle des fois, on fait une différence entre le théâtre qui parle à la conscience ou le théâtre qui s'adresse à l'âme. J'aime bien le théâtre dans lequel on se reconnaît. Finalement, la longueur d'un tel spectacle, il est intéressant pour ça, comme quand Claude Régis étirait ses spectacles presque à un point insupportable des fois. Mais ce qui était magnifique, c'est que notre manière de comprendre les choses, au bout d'un moment, on baisse la garde. Et donc, on arrive dans d'autres formes de compréhension. Le fait de s'endormir n'est pas grave au théâtre. Parce que lorsqu'on s'endort, alors si on s'endort profondément, on manque pas mal de choses. Mais si ce qu'on appelle « j'ai peur de pas comprendre le texte », la tension qu'on porte à chaque phrase, etc., se baisse un petit peu, on arrive à des zones de compréhension très intéressantes que nous avons et qu'on utilise trop rarement.
Alors moi, j'ai été percutée par une phrase qui m'a semblé résumer absolument tous les rapports humains, et pourtant elle est simple, parce qu'il y a une lucidité implacable sur les intentions humaines chez Claudel, toujours énoncée, parfois cruellement, par les différents personnages, et je pense notamment à Don Camille, disant à Prouesse « Vous aimeriez que je vous rassure, c'est comme ma mère qui voulait que je lui dise constamment les choses qu'elle pensait elle-même. » Mais en fait, c'est le cas de tout le monde.
Oui, oui, absolument. On est dans cette dépendance toujours. On est dans des formes amoureuses où on qualifie l'amour de l'autre à l'aune des sacrifices qu'il est capable de faire pour soi. On est rarement insulaire, effectivement. Mais c'est tout le chemin que fait Rodrigue.
Mais en parlant d'insularité et d'indépendance... C'est-à-dire que beaucoup de personnages souhaitent leur indépendance, mais il y a sans cesse l'idée qui revient d'appartenance à l'autre, de pouvoir sur l'autre. Tu m'appartiens, je suis dans ton âme, je suis dans ton corps, tu es à moi. Constamment.
Oui, alors ça c'est une chose qui n'est pas simple à comprendre. J'avoue que je n'ai pas encore tout compris à cette chose-là.
C'est-à-dire ça me rassure.
Apparemment, pour pouvoir s'évader, rentrer... dans l'au-delà, où on ne peut pas retrouver son aimé, parce que on est dans un au-delà où tout le monde est aimé de la même manière. Donc il y a plus de couple, il y a un grand infini, il y a un Champs-Élysées amoureux, Champs-Élysées grec amoureux comme ça.
Certaines drogues font le même effet. Des drogues terrestres.
Oui, sans doute.
Il paraît.
Sans doute. Et j'ai oublié le début de votre question.
Pardonnez-moi, c'était sur l'appartenance. Le fait de toujours vouloir posséder l'autre, qui semble très important et récurrent dans le verbe de Claudel.
Oui, il y a un vase communicant d'âme. C'est ça qui est complexe et magnifique dans cette pièce, c'est que ce qu'on a légué à l'autre, il faut le récupérer. Comme on poserait un lest dans une montgolfière pour que la nacelle puisse s'élever. Donc effectivement, il y a toute une thématique où, au-delà des continents, au-delà des mers, ils sont obligés à un moment de se rendre cette chose-là, et que la grande... belle idée de la liberté d'ailleurs, c'est-à-dire de confier à l'autre tout ce qui le tenait à vous, le rendre absolument libre.
C'est une pièce sur un amour impossible, c'est une pièce dans laquelle on voit des sacrifices, dans laquelle on voit du chagrin, des drames, et c'est aussi une pièce de la joie.
Oui, absolument. Oui, c'est une pièce de la joie. On qualifie rarement Claudel de cette qualité. Et en même temps, pour moi, elle l'est. Alors j'avais, moi, ce sentiment, il m'a toujours fait rire, Claudel. Quand je le jouais, je trouvais que sa langue était d'une vivacité, d'un muscle absolument dingue, que son orgueil était absolument joyeux. Et puis, il le dit à plein de moments. Il y a des phrases comme ça chez Claudel. Alors, dans les écoles de théâtre, on se les dit tout le temps. C'est Isée qui dit à Mézin, il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. C'est magnifique. Si on applique ça à nos cultures, à nos écoles, à nos universités, on a de quoi y réfléchir grandement. Et puis il y a une autre phrase dans Le Soulier de Satin, c'est Donia Musique qui dit ça à Donia Prouez, qui lui dit « C'est la joie seule et non l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. »
Et vous le répétiez à vos comédiens.
Ouais, ça. Parce que si on note le glacis catholique de cette chose-là, le glacis croyant de cette chose-là, c'est une maxime assez formidable. Et notamment pour le jeu, un acteur doit être toujours en joie. Il ne joue jamais mieux que lorsqu'il est en joie.
Même
dans une tragédie, absolument, encore plus. On sait d'ailleurs cette chose-là, c'est sans doute un phénomène compensatoire aussi. On rit toujours, on est toujours au bord du fou rire sur Racine, et généralement on s'engueule sur Feydeau. Ça paraît paradoxal, mais c'est un vase communicant.
C'est très étonnant. Comment est-ce qu'on la provoque, cette joie, pour jouer ?
Mais je crois que pour dire la tragédie des choses, on a absolument besoin d'être musclé, sans doute pour ne pas tomber dedans, tout bêtement, et pour pas tomber dans le piège d'une espèce de tristesse, de lenteur, de nostalgie, de lugubre, j'en sais rien. Les choses, la cruauté, elle est vive. Racine, par exemple, c'est vif, c'est un théâtre cruel. Marivaux aussi, il faut être extrêmement léger et d'une certaine manière insouciante. Souvent, les grandes douleurs qu'on a dans la vie, c'est souvent à cause de l'insouciance du monde ou l'insouciance des autres, voilà, qui ne considèrent pas que leur insouciance peut vous heurter. Mais le muscle est vraiment la joie est un muscle absolument nécessaire. Et puis, je savais aussi que quand vous convoquez les gens pendant plus de 8 heures dans une salle de théâtre et qu'ils se disent « je vais voir du Claudel », généralement, ils commencent par se dire « pourquoi est-ce que j'ai accepté cette purge ?» Ils ont un doute fondamental au moment de s'asseoir dans le fauteuil. Et donc, j'ai dit effectivement à toute la distribution, il faut pas quitter les gens du verbe et des yeux tout le temps. Il faut les prendre par la main, il faut les rendre joyeux. Il y a de grandes musiques, il y a de grands éclats de rire aussi. J'ai fait en sorte... des textes, vous pouvez vous dire, il est tragique, et puis vous manquez le fait que dans cette tragédie, il y a beaucoup de choses extrêmement drôles.
Mais c'est très très drôle. Il y a beaucoup de comédiens qui ont des rôles comiques, qui font hurler de rire la salle. Il y a des interactions avec le public que je ne dévoile pas. Et là, vous venez de parler du mot insouciance, Éric Ruff, et je ne peux m'empêcher de penser à Monsieur Florent, le fondateur du cours Florent, qui vous a dit un jour une phrase devenue votre maxime, il faut travailler ton insouciance.
Je rends grâce à Monsieur Florent, qui n'est plus là, mais que je salue.
Comment est-ce qu'on fait ?
Ben, voilà, il avait bien pointé le paradoxe, il faut travailler l'insouciance. Ben oui, mais en même temps, oui, ça se travaille. Mais c'est comme, en fait, c'est presque une parabole de l'acteur. En fait, l'acteur, il a un fantasme de maîtrise absolue. On aime ne pas se planter du tout, maîtriser absolument la monture du texte, cavalcader dessus sans aucun problème. Mais on sait que c'est seulement au bout de cette maîtrise, quand on arrive à l'oublier, à lui faire confiance, que tout d'un coup, on vit avec l'instant présent, le hic et nunc, et qu'on s'aperçoit que c'est toujours quand il y a un problème ou un dérèglement que les gens écoutent le mieux. Parce que l'ange de la réalité est en train de passer au plateau.
Et d'ailleurs... des anges, il y en a, mais je ne dis pas sous quelle forme. Et nous sommes prévenus au début que le plus intéressant sera sans doute dans ce qu'on ne comprendra pas.
Oui.
That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed my life completely and the lives of 7 others.
Dans cette émission, faire découvrir aux auditeurs des choses moins connues que les grands classiques. Et il y a des années, Éric Ruff, je vous avais reçu et vous m'aviez fait découvrir, ainsi qu'à de nombreux auditeurs, le texte Armen de Jean-Pierre Abraham, le texte d'un gardien de phare qui était époustouflant. Et là, on entend l'extrait du film La Corde d'Alfred Hitchcock, 1948, qui est une adaptation de la pièce La Corde de Patrick Hamilton. 1928, ouais, que vous-même avez monté. J'aimerais qu'on en dise un tout petit mot, parce que c'est l'un des films les moins connus d'Hitchcock.
Ouais.
Et il y a quelque chose de très wildien, de très dandy dans cette pièce. L'art,
oui,
pour l'art.
Alors, il faut que ça remonte à loin.
Bon, c'est un crime commis de façon parfaitement inutile pour voir si la théorie de l'art pour l'art est véritable.
Oui, ce sont des jeunes gens qui sont sous la coupe d'un maître qui a une théorie sur une sélection humaine entre les forts et les faibles, et qui leur dit que les faibles n'ont qu'à continuer à être faibles et à mourir, et que les forts doivent prendre le dessus. Et que ces jeunes gens sont tellement nubilés par cet enseignement qu'ils finissent par le faire. Et ils mettent le prof devant la réalité de sa théorie. Voilà.
Et c'est formidable.
Et c'est un très beau film.
On entend Eric Ruff, c'est quelque chose qu'il se peut qu'on entende aussi dans votre soulier de satin.
Oui, alors c'est une chanson italienne qui est là dans une interprétation magnifique, acoustique, juste à la guitare électrique, que j'ai beaucoup aimé, parce que Cessate, quand on l'entend, la plupart du temps, c'est chanté d'une façon lyrique, alors que là, il y a une espèce de rareté, d'un chant italien, d'une mélancolie absolument magnifique. Et
Il Pompeo de Scarlatti.
Ouais,
si
absolument.
Les auditeurs veulent la
absolument
référence.
Absolument, de Scarlatti. Et c'est un chant magnifique. Et tout d'un coup, en l'entendant, je me suis dit, tiens, j'ai le début du spectacle. Parce que il y a pratiquement 25 comédiennes, musiciens, comédiens qui chantent ça au début, comme une espèce de grand chant introductif. C'est très généreux. Et en même temps, il y a une mélancolie qui s'instille là-dessus, où tout d'un coup, il y a, le spectaculaire de Claudel. Il est spectaculaire, il sait faire spectacle, et en même temps ça parle à l'âme immédiatement.
Est-ce que vous faites toujours du basson ?
Non, mais alors il faudrait que je fasse retaper mon basson que j'ai pas touché depuis, une quarantaine d'années.
Mais vous allez vous retrouver peut-être.
J'aimerais beaucoup reprendre, oui.
Une créature de mon choix que je connaîtrais parfaitement.
Oui, ou pas parfaitement, mais...
Alors la Mniezopsis lady.
Oh waouh.
Voilà,
c'est une lady, ça, c'est
lady.
Évident.
Non, c'est L-E-Y-D-I. Et en fait, ça ressemble très fort à une méduse, mais il s'agit en fait de plancton, c'est un cténophore. Alors cténophore, on pense que ça porte la lumière, mais en fait, c'est parce que ça porte plein de cils.
Cils comme les cils
comme
des
cils. Comme nos cils à nous, mais voilà. Et ça dérive dans l'étang de Berre et ça phosphore un peu. Et c'est une espèce exotique, invasive, mais pratiquement pas envahissante, et elle vient du golfe du Nouveau-Mexique, et on ne sait toujours pas comment elle a pu arriver là. Alors, l'hypothèse privilégiée, c'est les eaux de ballast des pétroliers qui sont venus déposer leur pétrole à Berlétang. Et donc voilà, c'est assez beau. Et c'est un organisme très simple et qui s'auto-régénère, qui s'auto-mange, qui wow. s'auto-consomme quand elle a faim.
Beaucoup de rapports différents avec soi-même.
Ouais, ouais. Donc voilà, c'est l'espace que je vous ai fait découvrir.
Sigolène Vinson, en janvier dernier, dans l'émission, Éric Rue, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi son dernier livre paru aux éditions du Tripode, Le Butor étoilé. Et vous en lirez des extraits lors du lancement à la librairie de la Main à Paris, qui aura lieu le 3 avril au soir.
Absolument.
Un petit mot sur ce livre.
Alors, Sigolène, elle est au comité de lecture de la Comédie Française. Je voulais absolument qu'il y ait une autrice. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai reçu d'elle ce dernier livre. Et j'ai pensé à Son temps de solitude de Garcia Marquez. Tellement le rapport à la nature, ou presque au mystique, et puis à une réalité absolument ancrée. C'est un roman absolument magnifique. Alors, ça fait partie de ces romans qu'il est très difficile de résumer. Mais je le conseille à tout le monde, c'est une merveille.
Il y a quatre types de réactions face à un danger ou une agression.
Aïe, mais ça fait super mal.
Tu veux pas une péridurale non plus?
Et on cale sa respiration sur celle de son cheval.
Le premier instinct reste la fuite.
Ah non, attends, mais le maillot!
Respire.
L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement.
Respire.
Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée.
Hé hey, oh, oh.
Éric Ruff, le 2 avril prochain, vous serez dans le film Cassandre, réalisé par Hélène Merlin, avec Billy Blin et Zabou Breitman. Oui. Alors, ça se passe en 98, dans un manoir à la campagne. Cassandre a 14 ans, et vous campez dans le film son père, un père oui. militaire, raide et dur. Mm-hmm. Et alors, j'imagine que vous voulez dire un mot sur le film, et moi j'ai envie de parler de vous, parce que dans une interview récente, vous vous confiez sur votre père.
Oui.
Et ça m'a fait penser à votre... Est-ce que ça vous a influencé pour accepter ce rôle ?
Oui, bien sûr, oui, parce que ce père-là, fictif, tout aussi dur que baroque, me faisait penser au mien, effectivement. C'est un père très dur qui baisse les yeux devant un inceste qui se passe dans sa famille, dont sa fille est victime, mais c'est sur les relations incestuelles et comment, lorsqu'un père a subi de la violence, il la réitère derrière. Et c'est un film très fin parce que Hélène réussit à en donner toute la complexité de ses relations dans ce territoire inconnu qui est celui de la famille.
Vous, votre père lisait le grec, le latin, et vous vous sentiez stupide en comparaison. Et dans le film aussi, on voit ce rapport-là du père qui ne supporte pas quand un de ses enfants est lent ou pas à sa hauteur intellectuelle.
Oui, absolument. J'ai subi ça. J'ose espérer que j'ai été plus patient avec mes fils.
Est-ce que vous irez à la Comédie Française comme spectateur ?
Ah oui. Ah mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir fini les trois mandats, donc je ne pars absolument pas frustré. Et je pars en ayant passé tellement une grande partie de ma vie dans cette maison que j'ai adoré servir et qui m'a tellement donné. J'ai évidemment une curiosité sans fin pour cette maison jusqu'à la fin de mes jours.
Est-ce que vous dessinez toujours, puisque vous avez aussi une formation en plus de la théâtrale en art appliqué ?
Alors, je dessine de temps en temps parce que lorsque mes enfants étaient petits, je dessinais beaucoup parce que je les amenais à l'école et puis je dessinais pour toute la classe parce que je faisais des poneys, des indiens, etc. Les gamins adoraient. Ensuite, j'ai dessiné un peu pour mes scénographies lorsque j'avais le temps et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais reprendre, absolument. Merci. J'ai plein de projets.
Bah oui, écoutez, des livres, du basson et voilà, des dessins.
Des dessins.
Tout ça est que très... demander d'autre ? Merci beaucoup, Éric Ruff.
Merci, Eva.
Jusqu'au 11 juin prochain, des comédiens du français dont vous faites partie échangent avec des professeurs du Collège de France autour de l'art de la scène lors de plusieurs rencontres. Le 9 avril, vous serez avec Pierre-Michel Menger. Le 14 mai, avec Antoine Lilti et Isabelle Nanty. Et le 11 juin, avec Patrick Boucheron. Les informations pratiques sont à retrouver sur les sites du Collège de France et du théâtre. Votre mise en scène du Soulier de Satin de Paul Claudel est visible tous les samedis et dimanches pour les chanceux jusqu'au 13 avril à la Comédie Française. Enfin, non, on m'annonce une très bonne nouvelle dans le casque. Il y a tous les soirs de représentation 85 places mises en vente le soir même à 5 euros. Donc c'est une très bonne nouvelle. et vous serez à l'affiche du film Cassandre d'Hélène Merlin en salle le 2 avril. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget.